Le titre va peut-être porter un peu à confusion, mais on va clarifier tout cela bientôt. Donc, bon matin tout le monde. Je suis vraiment heureuse de partager avec vous ce matin. En fait, je déménage dans quelques semaines pour faire un stage aux États-Unis jusqu'à la fin décembre. Puis ensuite, je vais être de retour pendant quelques mois ou un mois. Puis après ça, je déménage à Vancouver pendant un temps. Donc, je suis vraiment en train de chérir mes derniers moments à Montréal, mais aussi avec tous les saints à l'église Oasis avant mon départ. Puis je dois dire que je constate à quel point cette église a fait partie de mon cheminement dans la foi, puis aussi ma pratique quotidienne de la foi jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'en suis reconnaissante. Donc, merci à vous tous pour ça. On va entamer notre discussion en lisant le texte d'aujourd'hui. Donc, Myriam a gracieusement accepté de lire le texte. Donc, soyez patients, il est un peu long, mais on va rentrer dedans bientôt. Donc, bientôt Myriam.
Apocalypse 21. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, des 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.
Merci Myriam. C'est un long texte, mais on va essayer d'analyser tout ça en ce moment. Mais on va commencer par prier. Donc, Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on a ensemble. Je te prie vraiment que ce soit tes mots puis pas les miens, Seigneur, que ton Saint-Esprit parle aujourd'hui. Amen. Donc, on est en train de faire une série sur le livre de l'Apocalypse depuis Noël. Puis on arrive lentement mais sûrement à la fin de ce livre qui est en fait le dernier livre de la Bible. Puis pour ceux qui n'étaient pas là dans les dernières semaines, vous pouvez en fait suivre les différents enseignements sur notre site web. Puis ça peut aider un peu à avoir une idée de ce qui se passe parce que c'est un livre un peu bizarre, le livre de l'Apocalypse. C'est pas pour rien que c'est rare que des études bibliques pour des personnes qui sont nouveaux dans la foi, c'est rare que ce soit le livre d'Apocalypse parce que c'est un peu weird. Mais je vais commencer par nous contextualiser rapidement avant qu'on rentre plus dans ce texte d'aujourd'hui. Donc, comme on a vu dans les dernières semaines, le livre de l'Apocalypse, c'est non seulement le dernier livre de la Bible, mais c'est aussi un livre fondamentalement prophétique qui parle de ce qui va arriver à l'Apocalypse, donc à la fin des temps. Puis, c'est le dernier chapitre de l'histoire de rédemption de Dieu. C'est la révélation de ce qui va arriver quand Jésus va revenir et régner pour de bon. Mais comme on a vu la semaine passée, on sait que la victoire a déjà été vaincue par Dieu, donc acquise, pardon, par Dieu, et ce, par la mort et la résurrection de son Fils à la croix, qui lui a combattu le péché, puis a vaincu Satan, il a battu Satan et notre ennemi. Puis il a été écrasé, Satan. Mais ce qu'on a discuté la semaine passée, c'est que, puis on a parlé dans Apocalypse 12, de cette allégorie du dragon. Donc, Satan est représenté par l'image d'un dragon, qu'il va entraîner par sa queue un tiers des étoiles. Puis en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est comme si Satan était le chef de notre armée ennemie, puis alors qu'il est en train, il réalise qu'il a sa défaite, il essaie de, alors qu'il est en train de se retirer avec ses soldats, il essaie de vraiment faire tomber le plus de soldats de notre armée, donc de l'armée de Jésus en attendant. Donc il faut, en tant que soldat de l'armée de Jésus, rester vigilant. Il faut qu'on s'assure que vraiment, on laisse pas Satan se faufiler dans notre chemin, parce qu'il essaie de nous faire tomber. Même s'il a perdu, il essaie de nous faire tomber alors que son armée se retire. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Puis on vit en ce moment dans un genre de paradoxe. Hein? On vit dans un genre d'entre-deux où on sait que Jésus a gagné, mais son royaume n'a pas été tout à fait établi encore complètement. Royaume, c'est quoi ça? Je pense que c'est facile en tant que chrétiens, d'oublier l'histoire dans laquelle on est. On pense que la Bible, c'est juste plein de livres un peu aléatoires. On pense que c'est plein de lois. On ne sait pas vraiment c'est quoi cette histoire. Parce que c'est une histoire de rédemption, la Bible. Du début jusqu'à la fin, c'est une histoire puis c'est focusé sur un royaume. Dans le livre de Genèse, Dieu crée un royaume, la terre, puis il crée l'humanité en son image. Donc, dans la personne d'Adam et ensuite Ève, pour qu'il puisse participer à son règne de ce beau et de ce bon monde, ce royaume qu'il a créé. Mais l'humanité, Adam et Ève, ils vont échouer, un fail, comme on dit en bon français, puis ils vont se rebeller contre le roi afin d'établir leur propre royaume sous leurs propres conditions. Mais Dieu, lui, il n'abandonne pas son projet de royaume. Il choisit un homme, donc Abraham et ses descendants, Isaac, Jacob, puis ensuite Israël sous le leadership de Moïse, pour le rejoindre dans le nouveau début de ce royaume. Mais on connaît tous l'histoire. Israël aussi, tout comme Adam et Ève, vont échouer, incapables dans leur péché d'établir le royaume de sainteté. Donc, c'est un autre fail. Mais encore, Dieu n'abandonne pas son projet de royaume. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il devient homme par la personne de Jésus. Puis Jésus vient, puis il réussit là où Adam, Ève, Abraham, Israël, toi et moi, où est-ce qu'on échoue tous à cause du péché? Puis le royaume de Dieu est inauguré une fois de plus. Puis aujourd'hui, en 2019, on est rendu là. L'Église, avec un grand E, donc on ne parle pas juste de l'Église Oasis, on parle de toi, moi, mais tous les chrétiens du monde, on a la mission de répandre le royaume de Dieu dans le monde. Puis c'est notre commission, puis Dieu a laissé son Saint-Esprit pour cette tâche, puis pour cet appel. Mais inévitablement, cette histoire doit se terminer. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La fin de l'histoire, c'est quand Jésus revient. Oh, pas grave, on va continuer quand même. Donc, c'est ça, moi souvent, je pensais que l'espoir ultime du chrétien puis la fin de l'histoire de la Bible, c'était le paradis. Je pensais que c'était la vie après la mort. Je pensais que l'Église, oui, avait ce mandat de faire venir le royaume, mais qu'ultimement, ce qu'on espérait, c'était de vivre éternellement dans les lieux célestes, donc pas ici, mais dans une autre sphère, une sphère spirituelle, avec Jésus. J'oubliais le concept de royaume sur terre. Puis, je pense qu'on a hâte au paradis. Hein? On voit toute la souffrance ici, on voit les injustices, la pauvreté, on voit les problèmes environnementaux, les crises de réfugiés, on voit les divorces, on voit les avortements, on voit les viols, puis on se dit, mon espoir, c'est le paradis, mon espoir, c'est loin d'ici, c'est quelque chose de séparé de ce monde présent ici. Mon espoir, c'est un autre monde, c'est ça que je me dis souvent. Mais l'espoir que j'ai en tant que chrétien, ce n'est pas simplement la vie après la mort, quand je vais être dans la présence de Dieu, dans un monde spirituel loin de l'horreur d'ici. Mais souvent, les chrétiens, on conceptualise le paradis comme la fin de l'histoire de la Bible. C'est ça qu'on pense. Puis pour clarifier ça, on va définir le paradis vraiment vite. On a parlé il y a quelques semaines du fait que lorsqu'un chrétien meurt, son âme est arrachée de son corps. Son corps va rester sur terre, son corps physique reste sur terre, puis va être dans la poussière, va être détruite, ça va se décomposer. Mais notre âme, nous, va dans une sphère spirituelle, va dans le paradis pour être avec Dieu. Puis c'est un monde non physique, puis c'est le paradis, ça. Mais dans ce passage du livre de l'Apocalypse, Jean est en train de nous dire, le paradis, oui, c'est quelque chose d'incroyable, mais ce n'est qu'un état intermédiaire. Regardons le plan ultime de Dieu. Ce n'est pas la fin de l'histoire, le paradis. N'oubliez pas le royaume qui va venir sur terre. N'oubliez pas que Jésus est en train de se préparer à revenir puis établir ce nouveau royaume. Puis l'évêque anglican, puis l'auteur N.T. Wright, il dit ceci, il dit quelque chose de similaire, il dit « Il faut qu'en tant que chrétien, on pense à la vie, après la mort. » Donc c'est un peu compliqué, mais je vais répéter. Donc la vie, après la mort. Donc après la mort, il y aura une vie, puis c'est le paradis, hein? C'est le monde spirituel dans lequel on va aller. Mais ce qu'il est en train de dire N.T. Wright, puis ce que Jean dit aussi, c'est qu'il y a de la vie même après ça. Puis Apocalypse 21 parle de cette vie-là. Donc aujourd'hui, mon message justement s'intitule « Le paradis n'est pas la fin de l'histoire ». Puis on va parler de cette vie qui vient après le paradis justement. Puis je réalise que ça peut sembler un peu choquant, mais j'ai été vraiment bénie moi en étudiant ce passage-là cette semaine. Quand j'ai lu la première fois, j'étais comme « Oh my God, je ne sais pas de quoi je vais parler ». Mais finalement, j'ai vraiment été bénie alors que je pensais puis que je méditais là-dessus. Donc, je vais souligner trois points importants sur ce nouveau royaume sur terre quand Jésus va revenir, comme on lit dans ce passage. Comme lorsqu'on prie que ton royaume vienne, hein, c'est ça l'idée un peu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Les trois points que je vais m'enseigner sont ceci. Donc, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Deuxièmement, il y aura une nouvelle Jérusalem. Puis on a chanté tantôt « Je veux y aller hein, ». Puis on va voir pourquoi on veut y aller. Puis trois, je vais parler du mariage de l'agneau. Mais pour commencer, on va parler de comment ce nouveau royaume va être inauguré. Puis ça commence avec le jour où Christ revient pour le jugement dernier. Puis ça va être moins le fun. Puis ça, on le retrouve dans Apocalypse 20, donc le chapitre précédent. Puis pour que tous les chrétiens, en fait, puissent jouir de ce nouveau royaume, il faut que Jésus revienne, puis il faut que tous les morts soient ressuscités. Donc, je vais lire Apocalypse 20. Donc, c'est les versets 11 à 15. Donc, on lit ceci. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, on voit dans Apocalypse 20 que, comme promis, notre roi Jésus va revenir. Puis il va être sur un trône blanc, puis il va ouvrir des livres qui dénotent nos actions. Mais ça, c'est des vérités inconfortables. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rend mal à l'aise de penser à mon Jésus sauveur, qui est un berger, qui va être un juge. Je trouve ça difficile à avaler personnellement. C'est une réalité, par contre, qui est clairement énoncée et réitérée dans la Bible par Jésus lui-même. Puis on voit clairement dans la parole infaillible de Dieu qu'un jour, tous les morts, chrétiens et pas chrétiens, se trouveront devant Christ qui est sur le trône et que certains, étant ses disciples fidèles, seront justifiés et acquittés par l'Évangile et la grâce de Dieu et pourront entrer dans la vie éternelle du nouveau royaume. Ça, c'est ceux qui ont été ses disciples. Hein? Donc, à ce moment-là, Dieu va voir, oui, les actions et les péchés de toutes les personnes. Mais ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ, eux, ils vont être vus à travers le sang de Jésus-Christ, à travers le manteau de délivrance dont parle Ésaïe. Nous serons acquittés de nos péchés. Amen. Amen. Mais il y a un autre groupe qui sera là. Puis ça, il faut en parler aussi. Ça, c'est ceux qui ont rejeté Jésus et son don à la croix. Puis ce groupe va vivre, ce que Myriam a lu, le second décès, c'est-à-dire la séparation ultime des pécheurs et de Dieu. Puis ils seront détruits après le jugement. Puis comme plusieurs d'entre vous, je lutte avec ça. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je trouve ça difficile de penser à ça. J'ai bien des amis, par contre, qui ne luttent pas avec ça, qui lisent le livre d'Apocalypse, puis ils lisent, puis ils disent « Ah, OK, cool, jeter dans les temps de feu. Wow, c'est un peu c'est raide, mais OK. Ah, nouvelle terre, ça, c'est cool. » Donc, ils lisent, puis ce n'est pas un problème. Moi, personnellement, quand j'ai le livre d'Apocalypse, je me dis « Comment est-ce que tu n'es pas aussi choqué que moi? » C'est fou, ça, que vraiment, Jésus va laisser certaines personnes être détruites. Je lutte avec ça. C'est des confessions, là. Mais on doit mettre notre foi dans un Dieu qui est de grâce et de justice, un Dieu qui est saint, qui ne peut pas être dans la présence du mal. Puis cette destruction-là, elle est nécessaire pour éradiquer le mal à tout jamais, pour l'empêcher de s'infiltrer dans le monde guéri que Dieu est en train de créer. Puis c'est ici qu'on peut parler de ce nouveau monde, puis ce nouveau royaume dont j'ai mentionné tantôt, puis dont parle Jean dans Apocalypse 21. Comme j'ai mentionné, il y aura de la destruction qui sera engendrée par le jugement dernier, mais Dieu ne va pas complètement détruire le cosmos. Donc le cosmos, c'est comme l'univers en son entier. Plutôt, c'est ici que Jésus inaugure une nouvelle création. Le paradis, ce n'est pas la fin de l'histoire. La nouvelle création, c'est la fin de l'histoire. Puis tantôt, j'ai mentionné le paradis. Moi, souvent, je pensais que ce qui m'attendait dans le royaume de Dieu, c'était un domaine qui était impalpable, éthéré, pas tangible. Je pensais que après le jugement final, nous tous qui sommes chrétiens, on allait être menés à une genre d'existence spirituelle dans le paradis pour toujours. Puis beaucoup de chrétiens, je pense, on pense ça. On se dit, le paradis, je pense que j'ai vu ça dans une annonce de fromage Philadelphie. Hein? Avec les nuages, avec les harpes, les chérubins. Ça, c'est comme des anges qui sont un peu obèses. Puis, on va se le dire. Je pensais que, c'est ça, le royaume, ça allait être super céleste et angélique, puis que ça allait pas être physique. Mais les amis, notre compréhension du royaume de Dieu ne devrait pas être informée par des annonces de fromage Philadelphie. On sera dans le paradis pour un temps, c'est vrai. Mais ce qui nous attend pour la complétion du temps, la fin des temps, comme le dit le passage, c'est un nouveau ciel et une nouvelle terre. Puis ça ne va pas être une genre de sphère où tout le monde est en train de voler puis jouer la flûte traversière en touche blanche, non. Notre monde, celui ici qu'on voit autour de nous, va être rendu nouveau. Dans ce nouveau monde, le shalom de Dieu va être restauré. Le mot shalom, on le voit dans le récit de la création, dans le livre de Genèse. C'est un mot hébreu qui veut dire paix, harmonie. Oh, c'est le fun. Oh, attends, non, c'est l'autre bord. Fermez vos yeux, les amis, vous êtes tous en train de voir là, mes punch. Une seconde. Oh, on est là, shalom. C'est bon. Oh, yo, yo. On arrive, désolé. Jugement dernier, nouvelle création. Shalom, on est là. Bon, merci à l'équipe technique, là, vous travaillez fort. Oui, c'est ça. Hein? On applaudit. Donc, quand Jésus... C'est ça, donc, dans le récit de Genèse 1, on parle de shalom, hein? On parle d'une harmonie, on parle d'une absence de discorde. Mais quand le péché entre dans Genèse 3, le shalom a été brisé. Quand Jésus va revenir, par contre, et qu'il va créer ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, il va entièrement restaurer le shalom qui nous manque aujourd'hui. Il va l'amener à sa complétion. Mon copain habite en Colombie-Britannique, puis l'année passée, dans le mois d'août, j'ai été le visiter, puis il y avait des feux de forêt qui avaient ravagé la province. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était vraiment incroyable. Tu pouvais regarder des photos d'où étaient les feux, puis c'était partout. Puis on a été faire une randonnée, évidemment pas dans le feu, mais on a été prendre une randonnée en montagne, puis le ciel était complètement gris, quasiment noir. On avait de la misère à respirer. Puis, c'était comme si le monde entier était en train de crier pour la restauration du shalom. Les feux et ce chaos ne sont pas l'harmonie que Dieu avait en tête quand il a créé ce monde. Mais ultimement, cette harmonie va revenir quand Dieu crée un nouveau monde, quand il va avoir une recréation. La bonté d'Éden sera notre réalité dans ce nouveau monde. Puis on voit ceci dans Apocalypse 21:5, on lit « Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. » La corruption du péché, en fait, elle a touché toute sphère du monde, toute sphère de la vie, hein, l'environnement, la famille, la sexualité, tout a été d'une façon ou d'une autre, à différents degrés, affecté par le péché. Mais ici, on voit que toutes choses vont être faites nouvelles. Ça veut dire que c'est un travail, une restauration de shalom qui sera compréhensif, ça va être complet. Pensons à ça un peu. Jean n'est pas en train de dire que Jésus va éradiquer ce monde. Il ne dit pas que quand Jésus revient, il va détruire le monde dans lequel on est puis nous emmener justement dans ce paradis, dans ce monde céleste. Non, il est en train de dire qu'on va être dans un véritable endroit, un monde physique, tangible, où toi et moi, on va avoir des nouveaux corps ressuscités. Puis on va être dans une nouvelle terre qui a été refaite pour l'éternité. Un monde où il n'y aura pas de détérioration, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie, pas de tristesse et pas de mort. Ça, c'est l'espoir du chrétien. Ça, c'est l'espoir de ma mère qui vit dans une douleur chronique depuis un an. Elle va être dans un corps ressuscité. C'est l'espoir de mon ami qui lutte avec une dépression. C'est l'espoir de mes grands-parents qui voient jour après jour leur corps vieillir. C'est l'espoir de l'aveugle, du sourd. C'est l'espoir de la femme qui ne réussit pas à tomber enceinte, puis c'est l'espoir du veuf qui est endeuillé. On va être dans un nouveau monde. Puis dans ce nouveau monde, désolé, vous ne voyez pas bien, mais tout le chagrin de notre monde sera réparé. Puis comment? Mais c'est parce qu'on aura un accès sans entrave à notre Dieu Tout-Puissant. Dans le verset 3, on dit que Dieu lui-même habitera avec son peuple. Il sera Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne sera pas trouvé dans un tabernacle, il ne sera pas trouvé dans une tente, mais il ne sera pas non plus seulement sous la forme du Saint-Esprit. Pas que c'est une mauvaise chose, le Saint-Esprit, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'on va être face à face avec la Trinité. On aura un contact direct avec la Trinité. Il va être avec nous dans cette nouvelle création. Puis dans le verset 4, on voit qu'il essuiera toute larme de nos yeux parce qu'il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris et plus de douleur. Même le prophète Ésaïe parle de ce nouveau monde des centaines et des centaines d'années avant Jean, dans Apocalypse. Donc, dans Ésaïe 65, il décrit un endroit où on ne va pas se rappeler des choses passées. Il parle d'un endroit où il n'y aura pas les bruits, des pleurs et des cris. Un endroit où celui qui est mort à 100 ans sera jeune. Un monde où personne ne travaillera en vain, où personne n'aura des enfants pour les voir périr. Où le nom de Dieu sera invoqué, il répondra. Un monde aussi où le loup et l'agneau paîtront ensemble. Un monde où le lion mange de la paille, où des roses poussent dans le désert. C'est une création nouvelle. Un jour, nous vivrons dans un monde qui a été fait une chose nouvelle. Puis on peut se rappeler de ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. Donc, toute la beauté, tout le bonheur, toute la joie qu'on voit dans ce monde actuel, en fait, c'est juste une ombre de ce qu'on va voir dans ce nouveau monde. Donc, prochaine fois que vous voyez un coup de soleil qui a l'air d'une peinture, puis que vous voyez, que vous mangez un festin vraiment délicieux, puis que vous entendez une symphonie de musique vraiment, vraiment belle, vous pouvez réaliser que ces choses sont des prophéties pour du monde à venir. Pour le monde pour lequel vous êtes fait, puis pour le monde pour lequel vous allez être refait. Et dans nos corps refaits et ressuscités, on va régner aux côtés de Jésus dans ces nouveaux cieux, dans cette nouvelle terre de Shalom. Puis on peut se rappeler de ce que Marc, mon père, a partagé il y a quelques semaines à propos du contexte du livre de l'Apocalypse. Jean est un exilé, donc sur l'île de Patmos, puis il écrit à l'église de l'Asie mineure, à un temps où les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain, dont lui, parce que justement, il était exilé. Puis en partageant le destin du cosmos, donc le destin des chrétiens, il dit « Écoute, Jésus va triompher, puis nous, on va partager dans son triomphe. » Mais ce qui est intéressant, puis ceci mène à mon autre point, c'est que la nouvelle création, ce n'est pas un jardin comme dans Genèse 1. La Bible commence dans un jardin, oui, mais ultimement finit dans une ville. Puis ce n'est pas n'importe quelle ville. Comme Jean écrit, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est facile pour nous, en tant que personnes qui vivent dans une ville dans le 21e siècle, de penser à toutes les choses négatives de la ville. On pense, moi, quand Jésus revient, je ne veux pas être dans le trafic. Je ne veux pas les klaxons, je ne veux pas des murs en béton. Je ne veux pas non plus la violence et le crime qu'on voit dans la ville d'aujourd'hui. Mais il faut qu'on se rappelle que c'est le péché qui a corrompu la ville. Ce n'est pas la ville en tant que telle qui est corrompue. Hein? Puis le pasteur Tim Keller, il dit « La ville est l'accomplissement des buts de l'Éden de Dieu. Nous avons commencé dans un jardin, mais nous finirons dans une ville. Le dessein ou l'objectif de Dieu pour l'humanité est urbain. » C'est quand même intéressant, hein? Donc, dans ce nouveau monde, la Nouvelle Jérusalem, ça va être une combinaison de toutes les meilleures choses des centres urbains qu'on connaît. Ça va être une communauté multigénérationnelle, multiethnique, multiculturelle, puis multilingue. Ça va être la proximité avec nos voisins. Ça va être de l'art, de la musique, de la culture, de la gastronomie. La ville, par contre, elle va vivre aussi en harmonie avec la campagne et la banlieue. Ils vont nous nourrir. Il y aura de l'agriculture probablement dans ce nouveau monde. Souvent, l'Église à Rimouski, je pense, écoute ça. Donc, je ne veux pas donner l'impression que la ville, ce n'est pas important. Les gens en campagne, on les aime aussi, là. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ça va être un lieu pour l'épanouissement humain puis la participation humaine. Ça va être un endroit qui a toutes les meilleures parties de la ville d'aujourd'hui, mais ça va être tellement mieux à cause de la présence de Dieu. Hein? Donc, Jean explique dans le verset 22 ceci, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu est son temple. » Et dans le verset après, on voit que la ville n'aura même pas besoin de soleil ou de lune ou de lumière, parce que la gloire de Dieu va éclairer tout ce nouveau monde. Puis le passage, comme on a eu plus tôt, décrit en grand détail toutes les façons que cette nouvelle Jérusalem sera de toute beauté avec des pierres précieuses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je disais ça, je ne savais même pas qu'il y avait autant de pierres précieuses qui existaient. Il parle justement de murailles qui vont être faites en jaspe et saphir et topaz et améthyste. La place principale va être en or. Pour voir, on a un Dieu qui a du bon goût, il est pas mal luxueux, c'est un bon vivant, là. Mais ça va être une grosse célébration de beauté. Cette ville qui nous attend, c'est toutes les meilleures choses des villes qu'on connaît aujourd'hui, mais ça va être rendu mieux à cause de notre Jésus qui l'illumine. La dernière chose que je veux souligner dans la vie quand Jésus reviendra, c'est le verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » C'est important de se rappeler que quand Jésus va revenir à la fin des temps, un mariage aura lieu. Puis ici, on voit encore la symétrie de la Bible, parce que c'est quoi la première institution que Dieu a créée quand il a créé le monde? C'est le mariage. Donc la Bible commence avec un mariage entre Adam et Ève, puis finit avec un mariage. Et comment, c'est ça, donc, puis pour vous mettre un peu en contexte, le mariage est de grande importance, puis on en parle dans le chapitre précédent de l'Apocalypse comme suit. Donc, je vais lire, en fait, c'est deux chapitres précédents. Donc, c'est le chapitre 19, les versets 7 à 9. On lit ceci. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Donc là, ça peut sembler un peu confusant. C'est qui se marie là? C'est qui l'agneau? C'est qui l'épouse? Mais en fait, l'agneau, c'est Jésus, puis son Église, c'est l'épouse. L'Église, c'est nous. Ici, Jean, il parle du jour où le peuple chrétien sera enfin unie avec Christ, son mari fidèle. Depuis l'Ancien Testament, Dieu utilise le langage de mariage pour parler de sa relation avec son peuple, avec nous. Parce que c'est une alliance et c'est une union qui va durer à tout jamais. Ce mariage sera possible à cause du don de Jésus à la croix. On lit dans le verset 13 du chapitre 19 que Jésus sera revêtu d'un vêtement teint de sang à ce mariage-là. Mais dans le verset 8, par contre, on voit que la mariée, elle, l'Église, sera vêtue d'un fin lin éclatant et pur. Dans ce mariage dont parle Jean dans l'Apocalypse 19 et ensuite dans le chapitre 21, les magnifiques vêtements que nous, on va porter en tant qu'Église, en tant que la mariée, représentent la pureté dans laquelle on va être vêtu. Hein? Mais cette pureté, cette robe de mariage, elle nous a été accordée. Elle a été achetée et payée pour nous par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ. On ne pouvait pas par nous-mêmes nous la procurer. On ne pouvait pas s'acheter cette robe de mariage-là. C'est Jésus, notre mari fidèle, qui l'a achetée pour nous. Puis comme on lit dans l'histoire de Noël, hein, je retourne un peu dans le passé, là, mais on lit, les anges disent aux bergers, « Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur, et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans des langes, dans des couches, et couché dans une mangeoire. » Notre Dieu s'est fait homme et est devenu un enfant dans des langes. À la fin de sa vie, il se trouvait dépouillé de ses vêtements à la croix. Tout ça pourquoi? Pourquoi les langes? Pourquoi la nudité à la croix? Pour acheter les vêtements de mariage de sa mariée, de son Église, de toi et moi. On est indigne, mais on est bien aimé. Dans quelques semaines, je vais aller au mariage de Nick et Marianne. Nicolas a grandi dans cette église, puis c'est le fils de Benoît et Claire. Puis quand Marianne va rentrer, on va tous la regarder. Hein? On regarde toujours la mariée. Puis j'ai aucun doute qu'elle va être de toute beauté, mais je veux me rappeler à ce moment-là de regarder Nick. C'est important de regarder Nick à ce moment-là. Puis ici, vous pouvez voir des photos de différents, je ne sais pas si vous voyez bien, mais des différents mariés qui voient leur épouse arriver. Hein? Puis ça peut sembler bizarre, mais quand on voit la mariée à l'autre bout, quand le mari voit la mariée arriver à l'autre bout de l'allée, puis elle s'approche pour entrer dans cette nouvelle alliance, c'est un moment fondamentalement prophétique. C'est un moment que le marié, que Nicolas soit ému ou complètement joyeux ou super émotionnel. Là, lui, il a de la misère un peu, là, le deuxième. Là, il est vraiment... Il est en train de brailler un peu. Là. Ce sera un moment qui nous invite à nous rappeler du moment où nous, en tant qu'Église, on va marcher en direction de notre Jésus, notre bien-aimé, l'amoureux de notre âme, qui va nous voir et qui va dire « J'attendais ce moment. » Tout ce que j'ai fait, l'incarnation, ma mort, tout c'était pour ce moment. Parce que quand Jésus était suspendu à la croix, qui était dépouillé de ses vêtements, il savait que la crucifixion, ce n'était pas la fin de l'histoire. Il savait qu'un jour, il allait avoir un mariage, puis qu'il allait être uni, puis qu'il allait trouver sa femme, sa mariée qui n'était pas fidèle, sa mariée qui allait être préparée pour lui. Amen! Donc, comme on a vu, notre espoir, ce n'est pas juste le paradis. Le paradis, ça va être incroyable, mais dans la complétion de l'histoire, il y a quelque chose d'encore mieux. Le dernier chapitre de l'histoire de rédemption, Dieu, après le jugement dernier, quand Christ va revenir, c'est un nouveau ciel et une nouvelle terre qui s'en vient pour nous, qui nous attend. C'est un monde physique où il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de souffrance et où le shalom de Dieu et l'Éden sera restauré. Ce sera une ville, une nouvelle Jérusalem, puis comme on en chantait, on veut y aller. Où tout sera plus beau, puis tout sera plus développé, puis on aura un accès infini à Dieu. Sa gloire sera toute la lumière dont on aura besoin. Puis finalement, ce sera un mariage. Le mariage longuement entendu entre Jésus et son Église. Puis on va à tout jamais être unis avec lui dans une alliance qui va durer toute l'éternité. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est quoi le point pratique de ce sermon? C'est tout beau, ça, mais qu'est-ce que je fais avec? Bien, on sait qu'on ne pourra pas par nous-mêmes inaugurer, par nous-mêmes, l'achèvement du royaume de Dieu, de la nouvelle création. Pour ce que ça se réalise, si on a besoin que Jésus revienne. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est être fidèle et obéissant à lui dans notre louange et nos actions. Parce qu'on est appelé à être des ambassadeurs de ce royaume qui s'en vient. On devient alors des participants actifs à l'introduction de son règne. Puis ça, on peut le faire, en fait, on peut être des symboles vivants de son shalom, de cette beauté, de cet engagement, autant dans nos relations que dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos quartiers, dans nos villes. Puis aussi, on doit se rappeler que même si on ne peut pas par nous-mêmes guérir, réparer, éliminer, anéantir toute la souffrance et les blessures et les injustices de ce monde, on a le mandat d'être le peuple de l'espoir. Puis notre espoir, c'est pas qu'on va, en bon québécois, sacrer le camp puis aller dans un monde céleste. On sort pas de ce monde, ce monde va être refait un jour. Plutôt, ça va pas être Philadelphie, on oublie ça le fromage Philadelphie. Mais plutôt, on a espoir que Dieu va faire de toute chose une chose fidèle, une chose nouvelle, pardon. Ce qui nous attend dans le nouveau monde, ça va être plus et mieux que tout ce dont on pourrait s'imaginer. Donc, quand on vit dans notre vie quotidienne, aujourd'hui, en 2019, on ne devrait pas se dire « Pierre Fond, mon travail, ma famille, mon mariage, ma belle famille surtout. » Ce n'est pas notre prison en ce moment jusqu'à ce que Jésus revienne. Non, plutôt, c'est des opportunités pour nous de voir un peu des prophéties, justement. La beauté du monde présent, c'est des prophéties du monde à venir. Puis aussi, on devient par nous-mêmes, en cultivant cette beauté, en cultivant le shalom, on devient des prophètes de ce nouveau monde nous-mêmes, d'un royaume qui s'en vient. Puis la façon aussi qu'on endure la souffrance dans notre monde actuel, c'est une façon de pointer les gens qu'on sait qu'un nouveau monde s'en vient. On sait qu'on a espoir. À la fin d'un film Disney ou d'une comédie romantique, hein, on voit souvent le prince et la princesse qui se réunissent puis qui vont dans le coucher de soleil à dos de cheval. Ou sinon, on voit l'homme et la femme qui s'embrassent sur un pont à la fin. Puis on se dit, oh, c'est la fin du film. Mais c'est seulement le début hein, de la vie des deux amoureux, hein, quand on y pense. C'est la fin du film, mais c'est le début. Mais c'est la même idée ici dans Apocalypse 21. Oasis, on réalise par tout ceci que la fin de l'histoire de rédemption de Dieu. Oh, pardon. La fin de l'histoire de rédemption de Dieu, ce n'est que le début. La fin de la Bible, ce n'est que le début. La vie qui vient après la vie, après la mort, ce n'est que le début. Le livre de l'Apocalypse est en train de nous rappeler de ce que Jésus est en train de dire. Il dit, « Bien-aimé, je reviens pour toi. Je m'en viens pour toi. Attends-moi. » Donc, Oasis, accrochons-nous à cette vérité et au futur qui nous attend. Et comme nous verrons dans des futurs enseignements, prions cette prière que Jean prie à la fin de l'Apocalypse. Il dit ceci, « Viens, Seigneur Jésus, viens. » Amen.